6 décembre 1917. Halifax, Canada, industrie militaire. L'explosion d'un navire lors du chargement de 9000 tonnes de munitions tue 2000 personnes et en blesse 9000. Une partie de la ville est soufflée par l'explosion.
4 octobre 1918, Sayreville, États-Unis, industrie militaire. L'explosion d'une usine de munitions tue 100 personnes et détruit 300 immeubles.
15 janvier 1919, Boston, États-Unis, industrie agroalimentaire. Une grande inondation se produit lorsqu'un réservoir de mélasse s'éclate et qu'une vague de mélasse envahit la ville à la vitesse de 56 km/h. Le bilan est de 21 morts et 150 blessés.
21 septembre 1921, Opao, Allemagne, industrie chimique. Une explosion se produit dans un silo contenant environ 4000 tonnes de mélange de nitrate et de sulfate d'ammonium destinés aux engrais. Elle cause le décès de 561 personnes, en blesse 2000 autres et dévaste la ville.
1er mars 1924, Edison, États-Unis. Industrie chimique. L'explosion d'une usine de traitement du nitrate d'ammonium provoque la mort de 24 personnes et en blesse une centaine.
Pas de panique, pas de panique.
Encore plus violente.
Tranquillement, et puis d'un coup tout s'est éteint. Et il y a eu d'un coup une explosion énorme et tout l'hôpital a été soufflé. Il y a les murs qui sont tombés, les vitres qui ont explosé.
Pour les 15 ans de l'explosion d'AZF, du 19 au 26 septembre, à Canal Sud et à La Chapelle à Toulouse, une semaine sur AZF et tout ce qui fait boum.
Pas de panique, pas de panique.
Plus d'infos, canalsud.net.
Quand votre ville fait boum.
Votre ville fait boum.
Rediffusion.
Industrie. Rediffusion.
Industrie.
Quand votre ville fait boum.
Le droit de tuer, il est concomitant de la montée du capitalisme. Assurément, il y aura des morts. La seule chose qu'on n'est pas capable de dire, c'est sur qui ça va tomber. Des industriels se sont acquis le droit de tuer parce que une maladie met longtemps à apparaître. Anita Boumouni, sociologue, directrice de recherche honoraire à l'INSERM. J'ai également des engagements citoyens pour lutter contre les cancers professionnels, les maladies environnementales et pour la condamnation des crimes industriels.
Cancer, le mot seul fait déjà peur. Maudit crabe, tumeur maligne. Qui n'a pas fait l'expérience de la lente dégradation d'un proche, de la disparition soudaine? Qui n'a pas eu peur à la découverte d'une boule, d'une tache? Les grains de beauté, si on les arrache, ça file le cancer. Fais gaffe au soleil, tu vas attraper le cancer. Tu fumes? T'étonnes pas après si tu chopes un cancer. Ah, il paraît que ça file le cancer. Tu cuisines avec ça, toi? Moi, j'ai arrêté. On s'est habitué à sa présence. On a notre petite stratégie santé. Mange bio, vie saine, bicyclette. Mais on en sait quoi, en fait, du cancer? En France, l'épidémie de cancer flambe. En 2012, on compte 355 000 nouveaux cas. Environ deux fois plus qu'en 1980. Les maladies neurodégénératives, les allergies, la stérilité masculine ou féminine, les atteintes à la santé mentale ne cessent d'augmenter. Des menaces plus diffuses concernent la non-gestion des déchets miniers, électroniques ou nucléaires, la pollution atmosphérique par les particules de diesel, mais aussi le nombre croissant de lieux contaminés par les métaux lourds, l'arsenic, l'amiante, les produits organiques persistants et les perturbateurs endocriniens, en particulier les pesticides. Le plus souvent, invisibles dans les statistiques officielles, les inégalités sociales face à la maladie et face à la mort s'accroissent. En 1984, un ouvrier avait 4 fois plus de risques de mourir de cancer qu'un cadre supérieur. En 2008, ce risque est 10 fois plus élevé. Le scandale de l'amiante et celui des pesticides ont dévoilé l'implication active des industriels dans le déni des risques et de leurs conséquences. L'incertitude sur les effets à long terme de nouvelles créations industrielles, mais aussi sur ceux des faibles doses de toxiques déjà parfaitement connues, alimente des débats et controverses au cours desquels les scientifiques s'affrontent avec des arguments contradictoires, souvent peu compréhensibles pour des citoyens sans formation spécialisée. Ainsi s'instaure un climat de doute et de soupçon qui creuse le fossé entre savants et gens ordinaires. Tout se passe comme si les premiers détenaient un savoir scientifique indiscutable, tandis que les seconds ne disposeraient que de connaissances empiriques profanes. Chacun est alors confronté à ces questions essentielles. S'agissant de la vie, de la mort, de la santé, qui croire, qui dit vrai, que nous cache-t-on, à qui profite la science? Dans son dernier livre, La science asservie, paru en 2014 à La Découverte, Anita Beaumoni nous donne un autre récit que celui des comportements et des manques individuels. C'est une toute autre histoire qui se déplie alors. Et ça change pas mal de choses. Elle nous parle des poussières et des fibres, elle nous parle des cancérogènes, de ce qui donne le cancer. Et les principaux acteurs sont des industriels assoiffés de profit et des scientifiques peu scrupuleux. Il n'est plus question de la faute à pas de chance et des modes de vie, mais du calcul cynique entre profit et mortalité. L'histoire du cancer est l'histoire d'une impuissance politique organisée. Une impuissance à éviter d'être exposée à la maladie. C'est l'histoire d'une façon de compter les morts plutôt que de protéger les vivants. C'est l'histoire d'un crime industriel. De passage à Toulouse, invité au Bijou par l'Université Populaire le 29 avril 2015, ironie du sort, c'est à moins d'un kilomètre du site d'AZF, aujourd'hui devenu un cancéropole, que nous l'avons rencontré.
Les cancéropoles n'ont pas du tout développé un soutien actif pour briser l'invisibilité des cancers professionnels, que ce soit à Toulouse ou en Île-de-France ou ailleurs. C'est-à-dire que ça fait 30 ans que je défends, et je l'ai défendu avec Henri Pézerat pendant des années, chaque fois qu'on a travaillé ensemble, l'idée que les registres de cancer devraient... D'abord, il devrait y avoir un registre départemental pour chaque département. Et chaque cas de cancer est en quelque sorte un événement sentinelle. Et donc, il serait nécessaire, même si ça n'a pas été fait jusque-là, et on a un déficit de connaissances à cause de ça, il serait nécessaire que pour chaque cas de cancer, il y ait la reconstitution du parcours professionnel et de l'histoire résidentielle. Et là, on pourrait véritablement travailler sur les facteurs de risque, donc lutter véritablement contre le cancer, c'est-à-dire contre la survenue, arrêter la chaîne de contamination. Et au niveau résidentiel, on sait par exemple les personnes qui non seulement ont travaillé à Salsigne, mais vivent à Salsigne, sont exposées à l'arsenic. Les personnes qui vivent à proximité des centrales nucléaires, certaines de ces centrales, on le sait, rejettent des produits radioactifs et mettent en danger la population riveraine. Si on faisait ce travail-là, si on l'avait fait déjà depuis 40 ans, on aurait des cartographies beaucoup plus précises de là où sont les risques. Et on pourrait les combattre. Encore faut-il avoir la volonté politique de le faire. Et c'est là où on revient au poids des lobbies industriels auprès du pouvoir politique, c'est-à-dire que la santé publique est le parent pauvre complètement, actuellement, de la politique européenne et de la politique française. Le gros problème, quand on propose quelque chose, comme je viens de l'évoquer, c'est que ça va pointer du doigt quels sont les responsables. Et c'est surtout ce que les pouvoirs publics ne veulent pas faire.
Colère et immense déception pour les familles des victimes de l'amiante en Italie et plus largement dans le monde. Dans l'affaire Eternit, la Cour de cassation italienne a annulé la condamnation à 18 ans de prison de Stefan Schmitaini. Cet industriel suisse avait été reconnu coupable d'avoir provoqué la mort de centaines de personnes dans ses usines d'amiante. Mais la plus haute juridiction italienne a considéré que les faits étaient prescrits. Ça nous a tous surpris, réagit ce proche d'une victime. En plus, dans le tribunal, dit-il, il y avait comme une atmosphère théâtrale. Tout semblait déjà dit, déjà décidé. Certains riaient même. Ce verdict sonne comme une amnistie, dit cette femme. L'Italie, qui se voulait un exemple, nous a dit aujourd'hui que Schmitaini est un homme libre. Il n'est plus inculpé. Selon le procureur, l'affaire Eternit aurait dû être considérée comme prescrite dès 1998, 12 ans après la mise en faillite de la société en Italie. Ce procès était considéré comme le plus important du genre. Environ 3000 ouvriers ou riverains de 3 usines en Italie sont morts des conséquences de leur exposition à la fibre.
Est-ce qu'on en est arrivé là? En fait, il faut repartir au XVIIe, XVIIIe siècle avec la mise en évidence par des médecins qui avaient une maladie, souvent respiratoire, c'était une maladie du poumon, mais comme on ne pouvait pas les voir trop à l'intérieur, on ne savait pas trop, mais qui était manifestement différente de maladies de type infectieux, qui étaient plus brutales, plus soudaines. Et puis, soit on en mourait, soit on en guérissait à l'époque. Enfin, il y a des observations dans la littérature. Quelqu'un comme Ramazzini, en 1700 et quelques, identifie des maladies qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui le cancer. C'était une espèce de maladie... pas par hasard qu'on l'appelle dégénérative, c'est-à-dire que ça pouvait durer relativement longtemps. Et en fait, il faut attendre évidemment que la médecine dispose d'outils diagnostiques qui permettent d'identifier ce qui se passe au niveau de la cellule et puis toute l'imagerie médicale. Donc en termes de diagnostic sur le cancer, c'est quand même le début du XXe siècle. Mais là, très rapidement, qui va prendre la main sur ces connaissances-là? Ce sont les industriels. Pourquoi? Parce que ils sont les premiers à se rendre compte que leurs ouvriers meurent ou tombent malades. Alors, il y a des maladies comme la silicose qui sont une insuffisance respiratoire progressive mais qui dure. Et puis le cancer quand même, le cancer pulmonaire en particulier, c'est pas en quelques mois comme la tuberculose, c'est sur 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais c'est une maladie qui progressivement s'autonomise par rapport aux maladies qu'on connaît avant. Que font les industriels quand ils s'en rendent compte que il y a des problèmes de santé graves? Alors, la maladie emblématique, c'est celle de l'amiante. Ils vont faire toute une série de recherches. Ils vont faire des recherches à des scientifiques et avec le concours de médecins. Et par exemple, pour l'amiante, dès les années 30, les industriels savent tout sur les différentes maladies liées à l'amiante. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dire, on sait qu'il y a la maladie de type fibrose, qui est une maladie invalidante, mais qui peut durer des décennies. Et puis, il y a le cancer. Sauf que à ce moment-là, ils décident que ça risque de mettre en cause la production de l'amiante. Et c'est le silence. C'est-à-dire qu'ils obligent les scientifiques et les médecins à ne pas divulguer cette information, à ne pas publier. Là, les industriels confisquent le savoir. Et C'est vrai, alors j'ai pris l'exemple de l'amiante, mais c'est vrai pour la radioactivité, c'est vrai pour la chimie, c'est vrai pour le plomb. C'est le fait que les poussières, poussières métalliques, les fibres, des poussières, des produits chimiques, des substances toxiques, sont identifiées comme altérant la santé. On a des textes très très anciens, alors, qui remontent même à l'Antiquité pour le plomb, pour le mercure et même pour l'amiante. On a des textes relativement plus récents sur tout ce qui est la chimie, avec des toxicologues au XVIIIe siècle qui font, par exemple, qui présentent des observations sur ce que provoque l'arsenic, le plomb, le mercure, des dérivés du pétrole qui ne s'appellent pas encore comme ça, mais c'est un peu ça quand même, des solvants, enfin, toutes ces molécules que des chimistes commencent un petit peu à manipuler et à jouer à l'apprenti sorcier, font qu'à la fin du XIXe siècle, il y a cette loi qui est extrêmement importante, parce que ça aurait dû être le socle de la prévention au milieu de travail. Et cette loi, elle est mais alors très claire sur... Le patron a une obligation, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui l'obligation de sécurité de résultat. C'est-à-dire, il doit maintenir l'atmosphère des ateliers de telle sorte que la santé des ouvriers ne soit pas altérée. Cette loi de 1893, elle marque la prise de conscience que l'industrie est en train quand même de générer tout un ensemble de pathologies et que donc la responsabilité des pouvoirs publics, c'est d'empêcher que, enfin, de produire des textes qui obligent les employeurs à respecter des exigences. Et c'est très parallèle au mouvement d'hygiène publique de l'époque qui est sur la lutte contre l'insalubrité au niveau urbain, l'eau potable, la lutte contre le choléra. Enfin, à partir du moment où on commence à avoir une vision un peu plus précise d'un certain nombre de maladies, l'idée, c'est quand même de dire il faut arrêter ça, quoi. Il faut combattre les risques. Et malheureusement, cette loi de 1893 sera recouverte par la loi de 1898 sur les accidents du travail, qui, au lieu de dire on va rechercher les causes d'accidents et chaque fois qu'il y a un accident, on va faire en sorte que le risque subi par le travailleur disparaisse au nom de cette loi de 1893, la loi de 1898 dit quelque chose qui est complètement contradictoire avec ça. C'est on ne s'occupe pas de la cause, il y a des victimes, ce sont les dégâts du progrès, il faut indemniser les conséquences. Et c'est cette loi-là qui va en fait devenir l'outil de référence pour les industriels, pour les employeurs, pour ne pas s'occuper de la prévention. On déplace le problème dans le champ de la négociation sur combien on va indemniser, comment on va indemniser. Tout le débat va être l'évaluation du préjudice vu d'un point de vue médical, donc vu d'un point de vue d'expert et pas du tout vu du point de vue des victimes. Et la logique d'assurance, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que ce sont les experts qui vont évaluer quel est le préjudice. Et la victime, elle a juste à se taire. Il n'y a pas une société dans laquelle il y a une autorisation de tuer, sauf la guerre, sauf enfin, disons le pouvoir répressif à un moment donné pour sanctionner. Mais le droit de tuer, il est concomitant de la montée du capitalisme. Enfin, il y a différents auteurs qui montrent comment progressivement, la rationalité économique va être considérée comme un intérêt supérieur par rapport à ce qui est alors jamais posé comme ce permis de tuer, parce que évidemment, les industriels, ils n'aiment pas ça, qu'on dise qu'ils ont l'autorisation de tuer, mais ça va être... Il y a des dégâts collatéraux, mais pour le progrès, il faut accepter ça.
Let's start the utopian side grinder.
La loi sur la salubrité des ateliers est portée par certains parlementaires en lien avec le mouvement ouvrier. Mais en parallèle, il y a tout le problème des accidents du travail. Et à cette époque-là, c'est dramatique. Hein. Il y a des estropiés dans les rues, il y a des familles qui sont réduites à la misère. Et une partie du mouvement ouvrier Et alors, en plus, les procès, ça n'aboutit jamais. Donc, le raisonnement qui consiste à dire aux ouvriers, on va trouver un système de réparation automatique et qui permettra que vous soyez à l'abri du besoin, rencontre l'accord d'une partie du mouvement ouvrier et de ceux qui sont leurs porte-parole au Parlement, c'est-à-dire qu'il y a un débat parlementaire qui dure 20 ans sur cette loi-là aussi. Les deux sont menés quelque part en parallèle. Et la partie du mouvement ouvrier qui est sur la réparation rapide, la possibilité de ne plus avoir à aller en justice, de ne plus avoir à prendre d'avocat, l'emporte. Et puis surtout, enfin, c'est ce qu'on connaît ensuite, si on prend un siècle et quelques plus tard, quand il y a eu l'histoire de la loi sur le FIVA pour les victimes de l'amiante, c'est exactement le même scénario. C'est-à-dire que c'est la carotte. On dit aux ouvriers, on va vous faire un truc fantastique, vous serez indemnisés dans des conditions rapides et meilleures que les conditions pénibles de la réparation, etc. C'est-à-dire que c'est un peu le miroir aux alouettes, mais ça marche. Et à partir de là, la prévention à partir de la loi sur les accidents du travail, c'est dramatique parce que les industriels s'engouffrent là-dedans et il n'est plus question de prévention. Et il faudra même attendre après la libération et même à ce moment-là, et même aujourd'hui, on le voit bien, les deux piliers des luttes au niveau syndical, c'est l'emploi et l'indemnisation. Et ça n'est pas la prévention. C'est-à-dire l'amélioration des conditions de travail, le fait que ne pas perdre sa vie à la gagner, il y a une petite minorité du mouvement ouvrier qui dit ça. Mais l'essentiel du mouvement ouvrier dit on a besoin d'un salaire, et c'est pas faux, et donc d'un emploi. Et tout ce qui... Alors, il y a une habileté du patronat à exploiter ça, qui est réel, pour dire, c'est contradictoire avec, si vous m'embêtez sur les conditions de travail, alors on délocalise, alors on ferme, alors... donc vous ne pouvez pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. En gros, le patronat, il dit tout le temps ça. Et le résultat, c'est qu'effectivement, on a énormément de mal, dans des périodes de chômage comme celle-ci, à ce que il y ait des mobilisations qui dépassent, des petits collectifs qui se battent là-dessus, mais qui se battent parfois même contre le reste du syndicat et le reste des collectifs ouvriers, quoi. Donc, cette contradiction-là, elle est présente depuis 2 siècles. Et puis, sur l'interdit de tuer, petits arrangements avec la loi, ça ne fait que croître et embellir. Le capitalisme est fondé sur la mort des ouvriers.
Ils nous guettent,
ils nous mentent,
ils nous tourmentent,
ils nous tuent,
ils nous mentent, ils nous abattent, ils nous insultent, ils nous mentent, ils nous tourmentent,
ils veulent nos têtes,
ils nous tuent, dans la rue,
ils nous abattent,
ils nous mentent, ils veulent nos têtes. Ils veulent nos têtes.
Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai.
Je lutte, parce qu'on me rejette. Mais sur ma route, enquête puis écoute. Et qu'on y ajoute des coups de tête et puis des coups de latte. Donc mate tous ces coups de pute en fait que l'on goûte. Et nos défaites ici sont à la fête. Parfaites en somme pour inspirer la crainte. Donc rien n'arrête les batailles que je décrète. Même si les flammes des émeutes sont éteintes. Moi, ce prototype que l'on tape. La l'archétype de la sale gueule dont on flippe et qui ne franchit jamais aucune étape sans qu'on me palpe du scalp jusqu'au slip. J'écope de la perpète entre les parfums où mon histoire se répète. Tu sais, la répression ici est comme un pit, brut et en rut, elle ne te rate pas, il se précipite. Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. Sur moi, ils lâchent la meute. Ils veulent mater les pommates et promettent de passer fer, barre et puis gourmette à ceux qui se révoltent et ceux qui comptent s'y mettre. Et ce n'est pas un mythe, sache qu'on nous pousse dans nos limites. Et quand on monte, tout comme le vélo d'Imat, une toute petite allumette peut de suite chauffer une tête qui dans la minute éclate. Tout ça alimente nos tourmentes, ils nous mentent, nous dégoûtent, nous tentent à la vie délinquante et nous déroutent. Et si on dérape, ils nous agrippent, déploient leur force de frappe et nous font sauter les tripes. Je sais, ça t'échappe, mon monde et mes sapes, mes ondes, mon équipe et mon handicap. Mes principes, mes mauvais tripes et puis mon rap. Donc ce que je récite, je suis pas sûr que tu le captes. J'adopte la vengeance comme seul but. Et la tolérance n'est pas trop dans mon concept. On nous souille, nous dépouille et nous insulte. Donc nous ne sommes pas de ces têtes que l'on accepte. Pour ça j'évite leur droit de vote. La prime au mérite a fait monter ma cote. J'ai tout leur keuf et ils s'en félicitent. Et dans l'air une odeur de bavure qui m'irrite. Alors que m'écoutent les élites délicates et que constatent les putes de politique. Si certains frères hésitent et puis comatent, je me répète, vous et moi ne sommes pas de kicks. Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. C'est ma teinte qui les éreinte et puis oriente leurs assauts et nos décès dans leur descente. Et s'ils s'excitent, nos têtes sautent, ils s'emportent, justice clémente et de suite ils s'en sortent. Nos vies défuntes ou en miettes, ils s'en foutent, c'est sur nos appartements qu'ils empiètent. Nous mettent dans la lunette des chiottes, tirent la chasse qui alors emmène leurs chiasses et la flotte. Donc j'en prends note et n'ai aucune attente. La fuite ou la fin te laisse trop dans la fiente. Ils guettent, battent, ligotent, mènent à la baguette et mijotent. Qui n'est pas leur pote, te souhaite la chute ou le shoot. Une existence méchante et puis faite de doute. Peu alléchante donc frère écoute. J'ai choisi de combattre pute et traite et leur porte de les abattre toutes. Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai.
Quand votre ville fait boum, rediffusion.
Industrie. Quand votre ville fait boum.
Le cancer, c'est pas une cause, un effet. C'est pas contrairement à la représentation dominante Enfin, un matraquage permanent qui est de dire le cancer c'est le tabac et à défaut de tabac peut-être que c'est l'amiante, mais c'est une représentation d'un instantané sur la relation entre un risque et une maladie. Or le cancer c'est biologiquement une histoire, une double histoire, l'histoire de la rencontre entre chaque individu et des cancérogènes. Et ce n'est pas un seul, c'est tout le long de décennies. Et puis, c'est l'histoire de la réaction, l'histoire des réactions de l'organisme face à ces agressions qu'est l'exposition à des cancérogènes. Et donc, on dit souvent qu'il y a un délai de latence très long entre exposition et maladie. C'est une mauvaise expression parce que, en fait, on peut considérer que dès qu'il y a rencontre avec un cancérogène, il peut s'être passé quelque chose au niveau des cellules, mais qu'ensuite, ça va être un processus très complexe où ben, on multiplie les agressions. Enfin, je vais prendre l'histoire d'un maçon qui commence à travailler à 17-18 ans comme apprenti maçon et qui, là, va rencontrer au minimum deux cancérogènes, l'amiante et la silice. Bon, déjà, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Savoir lequel des deux commence, impossible. Et ensuite, ce maçon, il va continuer pendant des décennies à être au contact de ces deux cancérogènes, mais en plus, il va s'en ajouter d'autres, c'est-à-dire que au fil des techniques, par exemple, les peintures, il y a les pigments de peinture, mais il y a aussi les solvants, et puis la différenciation des solvants. Il y a eu le plomb, et puis on a remplacé le plomb par autre chose, etc. Et en fait, cette histoire-là, la seule chose qu'on peut reconstituer a posteriori, c'est quelles expositions, et encore, c'est pas toujours facile, mais disons que... Mais ce qu'on peut pas dire, c'est comment ça a joué dans son organisme, parce que, parallèlement, il y a des mécanismes de défense au niveau de l'organisme qui vont permettre que, malgré tout... l'organisme résiste, mais résiste jusqu'à un certain point. Et lorsque survient le cancer, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, il a rencontré tel et tel et tel et tel cancérogène qui doivent être considérés comme ayant pu jouer un rôle. Et le plus probable, c'est que chacun a pu jouer un rôle. Mais le raisonnement qui consiste à dire, la représentation qui consiste à dire puisqu'il a fumé, ça ne peut pas être l'amiante, c'est scientifiquement faux. Et pourtant, c'est le raisonnement qui est majoritairement tenu par tous les médecins.
On va propager, je crois qu'il n'y a pas François d'autre terme, des fausses nouvelles de sur le fait que l'amiante est un produit naturel, que oui, c'est peut-être dangereux, mais on peut maîtriser le risque, comme l'eau et le feu. Hein, voilà, maîtrise l'eau, maîtrise le feu, bah, on va maîtriser l'amiante. Voilà. Que c'est pas parce qu'il y a des accidents de la route qu'il faut interdire la voiture, donc c'est pas parce que l'amiante tue qu'il faut interdire l'amiante.
La mise en évidence du lien entre un cancérogène et une maladie, elle se fait sûrement à partir de plusieurs disciplines scientifiques. Henri Bezerra, il a travaillé sur les mécanismes de cancérogénèse à partir de la fibre elle-même. Et pour l'amiante, par exemple, il a montré que ce qui était en jeu, c'est le mécanisme physico-chimique lorsqu'une fibre entre en milieu biologique. Ce type de recherche est venu très tardivement parce que les industriels qui probablement avaient fait des recherches de ce type ou en expérimentation animale ou en biologie cellulaire, enfin des approches qui en toxicologie pouvaient dès le début, c'est-à-dire dès les années 20-30, dire on est sûr que là c'est une substance dangereuse. Et ils ont dissuader des recherches faites de façon indépendante sur la toxicité des produits pour enfoncer le clou qu'il fallait prouver avec des statistiques qu'il y avait un lien statistiquement significatif entre l'exposition à l'amiante et le cancer. Et là, alors, il y a toutes les stratégies malhonnêtes qui consiste à dire c'est pas suffisamment significatif, il y a du tabac. Alors ils l'ont fait dire par des scientifiques qu'ils ont payés, dont le fameux Dole et Peto, enfin Dole et puis son collègue Peto, qui sont devenus, enfin Dole en particulier, est devenu l'épidémiologiste mondial qui dit la vérité sur la science du cancer. Et à partir de là, ça a créé à l'intérieur de la communauté scientifique une sorte de hiérarchie entre une discipline reine qui est l'épidémiologie. Et tant qu'on n'a pas l'épidémiologie, les industriels n'acceptent pas de reconnaître qu'une molécule est dangereuse. Du fait de la complexité de la maladie cancer, c'est pas toutes les personnes qui sont exposées qui vont faire le cancer et qui vont le faire dans les mêmes conditions. Et donc, la méthode statistique, c'est une méthode, je vais être un peu raide, mais c'est une méthode extrêmement grossière. C'est-à-dire qu'il faut des grands nombres et je dirais que ça ne s'arrête pas au détail. Donc, quand on n'a pas une homogénéité sur un très grand nombre, à ce moment-là, on ne trouve pas les mêmes résultats, etc. Et là, c'est la fabrique de l'incertitude, c'est la fabrique du doute. Et ça revient dans les exigences qui sont posées au niveau de la communauté scientifique, puisque ça devient une idéologie dominante, pour dire qu'il y a un lien entre un cancérogène et le cancer, eh bien, c'est l'épidémiologie qui va le dire. Mais comme l'épidémiologie, c'est la science des probabilités, c'est-à-dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non, il y a un excès, mais est-ce qu'on est très sûr que cet excès n'est pas en rapport avec autre chose ? Eh bien, les industriels ont, de ce fait-là, en s'appuyant sur des scientifiques, des mathématiciens, et puis quand même une série de scientifiques que je dis malhonnêtes, ont imposé que ce soit la statistique qui dise il y a un problème. Et pourquoi est-ce que je parle de mort statistique ? Alors j'ai emprunté cette expression à un collègue qui était physicien, qui s'appelle Roger Belbéoc, et qui a beaucoup travaillé sur la radioactivité, et qui disait de toute façon, les épidémiologistes s'appuient sur les données de mortalité. C'est les plus mauvaises données pour quand même arriver à identifier quelque chose, parce que avec le même cancer, il y en a qui vont vivre pendant des années, il y en a d'autres qui vont mourir tout de suite. Donc la mortalité, ça mesure quoi? On ne sait pas très bien. Et là encore, les épidémiologistes ont imposé de regarder la mortalité, pas l'incidence des nouveaux cas, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par an rapportés à la population, qui permet de voir l'évolution de l'épidémie.
Je représente ici un collectif de 20 à 30 personnes qui travaillent depuis bientôt 2 ans sur ces questions. Et disons que notre information est effectivement assez complète, beaucoup plus complète d'ailleurs finalement que celle de la chambre patronale, à moins qu'il y ait des omissions volontaires dans celle de la chambre patronale, dans les informations qu'elle diffuse. Nous avons un retard en France absolument considérable et inadmissible. Depuis 1930, il y a une législation en Angleterre. Nous sommes en 1976, il n'y a toujours rien. C'est absolument incompréhensible, d'autant plus incompréhensible si on ne savait pas aussi les pressions considérables qui sont faites par l'industrie de l'amiante, justement pour empêcher la sortie de ceci. Et j'en donne pour
mais
exemple.
Mais monsieur Pedra, regardez, vous avez l'information que l'on fait. Je vous signale qu'on n'a pas attendu toute cette campagne de presse pour améliorer les conditions de travail dans nos usines. Et on a des preuves absolument formelles dans ce domaine.
Dans les années 60, Irving Selikoff aux États-Unis, le lien amiante-cancer est dans l'espace public, indéniablement. À partir de là, qu'est-ce qu'aurait dû faire la santé publique en France, aux États-Unis, en Angleterre, etc., partout où on avait l'amiante? C'était constituer des registres, faire un suivi des travailleurs d'abord, faire un suivi des travailleurs, enregistrer au fur et à mesure ceux qui tombaient malades et faire un travail clinique approfondie, et puis de recensement des postes de travail pour voir justement la relation entre les maladies qui survenaient et les postes de travail. Au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que les épidémiologistes ont fait? Et là, c'est aussi sous l'influence des industriels. Les industriels ont dit Irving Selikoff, il a trouvé ça sur les travailleurs de l'isolation. Mais dans les mines du Canada, c'est pas comme ça. Et il y a un certain McDonald, un professeur McDonald, qui a fait des études parfaitement malhonnêtes qui tentait à prouver que l'amiante ne donnait pas le cancer aux mineurs canadien. On traîne ça pendant un siècle. Hein. Ça fait un siècle que ça dure, cette affaire. Hein. Et à partir de là, qu'ont fait les épidémiologistes ? Au lieu de s'intéresser et de faire un travail, ce que Irving Selikov disait, c'est il faut considérer qu'être exposé à l'amiante dans le travail de l'isolation, c'est pas la même chose qu'être exposé à l'amiante dans le travail textile, etc. De toute façon, il faudra faire la prévention, mais arrêtons de tout homologuer. Et alors, ça a été complètement transformé de façon perverse en disant il faut prouver que l'amiante donne le cancer dans toutes les situations. Alors, en France, il n'y avait aucune donnée jusqu'aux années 80, jusqu'aux années 70 d'abord, et ensuite, de nouveau, jusqu'aux années 90. Il y a très, très peu de données en France sur les maladies liées à l'amiante. Il n'y a pas de recensement, il n'y a pas de registre, rien. Les Italiens, les Anglais ont fait des choses, nous, non. Et, mais, qu'ont dit les industriels ? Ah oui, mais on n'est pas très sûr. Qu'est-ce qu'ont fait les épidémiologistes au lieu de dire, mais attendez, moi je suis en santé publique et mon problème, ça n'est pas de reprouver que l'amiante donne le cancer, c'est surtout d'empêcher qu'il fasse plus de dégâts que ceux qu'on constate aujourd'hui. Ils ont reconduit indéfiniment, et ils le font encore, la recherche d'une relation statistiques entre amiante et cancer.
Est-ce qu'on aurait pu interdire l'amiante dès 77 ?
Jacques Barrault répond à José Bourgarel.
Je crois qu'on n'avait pas à ce moment-là les données scientifiques qui permettaient de procéder à cette interdiction, et d'autre part, nous n'avions pas des substituts de l'amiante qui, notamment, dans ses capacités d'arrêter toute propagation du feu. Parce que c'est ça, il faut voir aussi que les équipements des sapeurs-pompiers étaient essentiellement à base d'amiante. Il faut savoir aussi que vous aviez, en effet, une méthode de prévention contre le feu qui était particulièrement appréciée. Donc, toutes ces raisons faisaient qu'on voyait bien l'utilité, qui permettait d'éviter d'autres risques, mais on ne voyait pas aussi le risque spécifique de ces fibres qui pouvaient, en effet, lorsqu'il y avait une petite défaut du dispositif amianté, de pouvoir libérer des fibres.
Il y a l'articulation entre les industriels et les scientifiques qui conduit à cette perversité, quand même, de la santé publique. Mais ce qu'il y a également, c'est le fait que cette incertitude, elle sert bien l'immobilisme des pouvoirs publics. Il faut voir comment ça s'est passé en 77. En 77, donc, il y a le mouvement de Jussieu, le mouvement d'Abizol, et puis il y a des réunions au ministère du Travail en disant il va falloir faire quelque chose. Alors là, les industriels disent bon, bah d'accord, on va faire une valeur limite, puisque de toute façon, dans tous les pays, il commence à y en avoir. Mais on ne descendra pas en dessous de 2 fibres litre. Et là, il y a un certain nombre de médecins pour dire, mais vous savez très bien qu'avec 2 fibres litre, on ne protégera pas contre le risque de cancer. Et là, les pouvoirs publics se retrouvent face au chantage des industriels. Alors, c'est le travail des lobbies qui dit, nous, on ne descendra pas en dessous. Le ministère du Travail lui-même est en train de détricoter sur le plan de la santé au travail ce qui avait été construit pour protéger les travailleurs. Donc, évidemment, sur des risques aussi graves que les risques de cancer, on est face à une situation où la rationalité économique triomphe. Mais c'est impressionnant de voir, de ce point de vue-là, moi, de mon point de vue, la régression sur le plan de la possibilité de faire jouer à l'État le rôle qu'il devrait jouer en termes de protection et de prévention des risques du travail. Et sur ces risques à effet différé en particulier. C'est la progression de la notion de risque acceptable qui est absolument inadmissible si on se réfère au droit pénal. Il y a un interdit de tuer, de mettre la vie des autres en danger, de blessés, etc. Et en fait, la notion de risque acceptable a été, c'est un compromis socio-économique qui a été imposé là aussi par les industriels, malheureusement avec la complicité aussi des scientifiques, au travers de cette mécanique du doute. Quand on parle de valeurs limites d'exposition, les valeurs limites d'exposition à un cancérogène, c'est admettre qu'il y aura des morts. Quand dans le nucléaire on dit 20 millisieverts, c'est-à-dire une irradiation qui peut aller jusqu'à 20 millisieverts par an, quand les travailleurs parlent de leur crédit d'irradiation, c'est une expression absolument redoutable, ça veut dire que assurément il y aura des morts. La seule chose qu'on n'est pas capable de dire, c'est sur qui ça va tomber. À partir du moment où, scientifiquement, on sait qu'il n'y a pas de seuil en dessous duquel le risque est nul, la cohérence d'un point de vue de protection des hommes et des femmes, c'est qu'il n'y ait aucune exposition. Et alors, il y a une contradiction quand même actuellement entre une certaine progression de cette idée-là, puisque les textes du Code du travail et plus largement des directives européennes sur les cancérogènes, c'est de dire, le premier article, c'est une substance cancérogène doit être substituée par une substance qui ne l'est pas. Moi, d'un point de vue de santé publique, de chercheur en santé publique, je pense que c'est devant les tribunaux que la question du crime industriel doit se régler. Parce que autant, dans la première moitié du XXe siècle, quelques industriels étaient au courant parfaitement pour chacun des domaines. Le plomb, la radioactivité, l'amiante, la chimie. On avait là la naissance d'un cynisme industriel absolument sans précédent dans l'histoire, je pense, quand même. Mais à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, et encore plus avec le mouvement pour l'interdiction de l'amiante, etc., on est là dans une situation où il y a une mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Donc le cynisme a pris quand même des dimensions telles que il faut qu'un juge, à un moment donné, arrête ça. On a dans l'industrie chimique des procédures qui commencent à se mettre en place pour juger d'un point de vue pénal ce qui est au cœur de cette histoire et que malheureusement des scientifiques ont soutenu et continuent de soutenir, c'est-à-dire le fait que des industriels se sont acquis le droit de tuer parce que une maladie met longtemps à apparaître.
Dachez coron, cœur mu, ménage. Les mineurs viennent d'avoir leur congé. Prennent leurs valises et partent voyager. À la campagne, ouvrir leur parenté. Mis comme mes hôtes, je prends mes bagages. Et je m'en vais, mais je quitte pas ma patelin. Je vaux du pays, v'là de manière que je m'y prends. Sans débourser un sou de train. Et je passe mes vacances tout en haut des chéris. J'ai tout dit de la chance, et le terrain y est jamais pris. Je monte une toilette tant que je vis tout seul, et je m'arrache. Et si fais-je rire, je campe, et suis heureux de faire du campache. Je me fais la popote, et je vis pas mieux qu'à l'hôtel. Je mets comme les cocottes du rouge à mes orteils. Du haut des couplettes, je me crois à Chambéry. Mais je ne suis qu'au fait tout à haut des chéris. Comme point de vue, faut dire ce que je dégote. Les beaux, les prairies des avirons. Les villages, les villes, nos corons. Et je me rasse lol, ça ne me coûte pas rond. Sur ma feu de bouche, fais tout me gargote. Vie hors d'oche, pommes, frites, morceaux de lard. Et j'ai monté 35 litres de pinard pour m'y chucher un père peinard. Et je passe mes vacances tout en haut des chéris. J'ai tout dit de la chance et dire ce que je vaux chez ta mie. Quand arrivait le soir et je vaux venir les amoureux, ils attaquent qui passe noir, mais mi je ne les quitte pas des yeux. Ils vont s'alassant, je dis j'en débalivernes, tout à s'abrassant d'un chevelé, d'un chluzerne. Ils se font des papoules à sa plan, mon chéri. Et mi je vaux tout chat, tout à haut des chéris. Mes aventures, je n'ai point eu de chance. D'un seul coup, là, qui se met à pleuvoir, je rate à l'abri sous ma perchoir. Et me tente à le pichot, jusqu'au pire canard aux oies. Alors j'ai poussé la romance. J'ai sorti pour m'éviter le cafard. Et j'ai flûté, saxilité de pinard. À berloquant comme un pochard, j'ai dégringolé tout à bas des chéris. Arrivé au pied, je me suis relevé, tout meurtri. C'est plus quoi que j'ai fait, j'avoue tellement âne cuite. À la place des barrettes, j'avoue su m'tiette et j'condron à frite. À forcer de bourler et me pencher sur des cailloux. Il y a un certain place, il m'a manqué un morceau. J'y ai mis un bout de loupe et suis pas prêt d'être guéri. Et suis remonté tout à haut des chéris.
Alors pendant 30 ans, le mineur campeur, il ne quitte pas sa chère Thierry. Même passionné, il y voit comme au passé. Seulement aujourd'hui, il est malade. Il faut celle-là user. Il est dans sa lit et les larmes aux yeux, en revisant à travers un carreau, il dit tout bas.
Comme ça va vite, comme le temps passe, au Thierry j'ai campé belles années, acheteur il faut l'abandonner. Je ne suis plus qu'un vieux mineur passionné, et je n'ai plus que des hoches d'âme carcasse. Suis vieilli, mes gants sont ramollis, et des mferniettes en étant dans ma lit. À travisant j'ai dit c'est fini, je ne montrerai plus jamais tout à haut de Thierry. Fini désormais, le médecin je l'ai bien compris. Par 40 ans de fond, mes poumons y ont que de cosse. Plein de poussière et de carbone, un appel chat, la silicosse. C'est bateau ma tour, et de partir comme tant de vieux. Et de faire un long séjour, là auprès du bon Dieu. J'espère qu'il me laissera. Quand je serai au paradis, quand venir en vacances tout à haut de ma Thierry.
De 1927 à 1932, Golay Bridge, États-Unis, industrie hydroélectrique. Afin de générer de l'électricité pour une usine en aval, on décide de tourner la New River en la faisant couler dans un tunnel creusé sous la montagne Golay. Lors du creusement du tunnel, les ouvriers trouvent de la silice et on leur demande de l'extraire sans aucune protection, provoquant une épidémie de silicose qui tua entre 476 et 1000 ouvriers.
15 septembre 1929, Petite Rosselle, France, activité minière. Un fût de benzol de 200 litres tombe au fond du puits Saint-Charles et explose, provoquant la mort de 3 personnes. Le lendemain, lors des travaux de réparation, un coup de grisou tue 23 personnes et en blesse 21 autres.
De 1932 à 1968, baie de Minamata, Japon, industrie chimique. Une usine de fabrication d'engrais produit des rejets industriels contenant du mercure et provoque une catastrophe sanitaire. 3000 personnes décèdent des suites de déformations physiques ou d'empoisonnement sévère.
Quand votre ville fait beau. Quand votre ville fait beau.
Pour les 15 ans de l'explosion d'AZF, du 19 au 26 septembre, à Canal Sud et à La Chapelle à Toulouse, une semaine sur AZF et tout ce qui fait boum.
Quand votre ville fait boum.
Boum.
Le mercredi 21, à partir de 10h17, sur les ondes et dans le local de Canal Sud. 6 heures de direct sur l'explosion, ses conséquences, la lutte pour la fermeture du site, les procès. Le samedi 24, à partir de 10h17, à la chapelle, 10h17 d'émission en direct et en public. L'agriculture industrielle, l'industrie d'armement, l'urbanisme. Plus d'infos sur canalsud.net.
Met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality, a different kind of reality. I dream of loving. Special about you. Dreams are my reality, the only kind of reality. Maybe my foolishness is past, and maybe now at last I'll see how the real thing can. Dream of you.
En septembre 1794, la poudrerie de Grenelle explose à Paris en pleine zone urbaine après la mise en place de nouvelles méthodes de travail permettant d'augmenter sa capacité de production. Un millier de victimes est dénombré parmi les employés et la population riveraine. À la suite de cette catastrophe, la prise de conscience des risques que peuvent créer les activités de nature industrielle a contribué au fondement de la réglementation française sur les établissements dangereux par le décret impérial de 1810. Le 10 mars 1906, la plus importante catastrophe minière d'Europe, dite catastrophe de Courrières du nom de la compagnie des mines de Courrières qui exploitait alors le gisement de charbon, fait 1099 morts à la suite d'un coup de poussière. L'émotion qui s'ensuivit est à l'origine d'un vaste mouvement de grève qui déboucha sur l'instauration du repos hebdomadaire. Le 2 décembre 1959, le barrage de Malpasset, dans le Var, cède. Une vague de 60 mètres de haut dévale le lit du Réran jusqu'à Fréjus. Elle fait 423 morts, touche 951 immeubles, dont 155 sont entièrement détruits et ravage totalement 1030 hectares de terres agricoles. Le 4 janvier 1966, explosion de la raffinerie de Fézin en France. Cette explosion a fait 18 morts, dont 11 pompiers et une centaine de blessés. Le 18 mars 1967, le pétrolier Torrey Canyon laisse échapper 123 000 tonnes de pétrole, souillant ainsi 180 mètres carrés de côte anglaise et française. Le 23 juin 1969, pollution accidentelle du Rhin près de Bingen par un flux de 500 litres d'insecticide d'endosulfane qui pollue le fleuve sur plus de 600 km. Plus de 20 millions de poissons périssent. Le 19 décembre 1972, naufrage du Sea Star, pétrolier dans le golfe d'Oman. 100 000 tonnes de pétrole se répandent. Le 7 juin 1975, échouage du Showa Maru près de Singapour. 237 000 tonnes de pétrole se répandent dans le détroit de Malacca. Le 12 mai 1976, le pétrolier Urquiola explose dans la baie de Corogne en Espagne. 100 000 tonnes de pétrole sont déversées dans la mer. Le 10 juillet 1976, explosion d'un réacteur chimique à Seveso en Italie. Le 16 mai 1978, naufrage de l'Amo Cocadiz, pétrolier au large des côtes françaises. 220 000 tonnes de pétrole. Le 28 mars 1979, fusion d'un réacteur nucléaire sur l'île de Three Mile Island en Pennsylvanie. Le 3 juin 1979, la plateforme pétrolière Ixtoc 1 explose au Mexique et déverse durant 9 mois entre 500 000 et 1 million de tonnes de pétrole brut dans la mer. Le 19 novembre 1984, la raffinerie de San Juan de Ixhuatepec à Mexico explose. Le bilan officiel de la catastrophe fait état de 500 décès, près de 2000 blessés et 1200 disparus. Le 3 décembre 1984, une fuite de 40 tonnes de gaz toxique de l'usine de pesticides d'Union Carbide à Bhopal en Inde fait plus de 8000 morts dans les trois premiers jours et plus de 20 000 en près de 20 ans. Le 26 avril 1986, explosion du réacteur de type RBMK numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl en URSS. C'est l'accident nucléaire le plus grave à ce jour. En 1987, explosion d'un dépôt d'engrais à Nantes. Un nuage toxique se répand sur l'agglomération nantaise. Le 24 mars 1989, naufrage de l'Exxon Valdez, pétrolier en Alaska. Plus de 40 000 tonnes de pétrole brut se répandent sur 1700 km de côte. Le 3 mai 1991, explosion de l'usine de pesticides Ana Versa de Cordoba. Au milieu d'une ville de plus de 300 000 habitants, 38 000 litres de pesticides sont répandus dans l'atmosphère. Le 3 décembre 1992, naufrage de Ligan Si, pétrolier à la baie de Corogne en Espagne. Le navire perd la totalité de ses 80 000 tonnes de pétrole brut. Le 5 janvier 1993, naufrage de Braer, pétrolier en Shetland. La totalité de son chargement, 84 500 tonnes, se répand. Le 15 février 1996, naufrage du Sea Empress, pétrolier en Pays de Galles. La moitié du contenu de ses cuves, 13 000 tonnes de brut, se répand. Le 2 janvier 1997, naufrage du pétrolier russe Nakhodka, au large de l'île japonaise de Honshu. 19 000 tonnes de pétrole se répandent dans la mer. Le 12 décembre 1999, naufrage de l'Erika, pétrolier au large des côtes françaises, 12 000 tonnes de pétrole lourd répandu. Le 30 janvier 2000, déversement accidentel de 100 000 mètres cubes d'eau contenant du cyanure dans un affluent roumain de la Tisza, anéantissant toute vie aquatique dans le cours hongrois de la rivière. Le 21 septembre 2001, l'explosion de l'usine chimique AZF à Toulouse fait 30 morts et plus de 2500 blessés graves, tout en causant des destructions importantes sur tout le sud-ouest de la ville. Le 14 novembre 2002, naufrage du Prestige, pétrolier au large des côtes espagnoles. 77 000 tonnes de pétrole lourd sont répandues. Le 1er février 2003, explosion de la navette spatiale Columbia lors de sa rentrée dans l'atmosphère. le 27 juillet 2003, naufrage du Tasman Spirit, pétrolier au large de Karachi, Pakistan. 40 000 tonnes de pétrole brut se déversent dans la mer. Le 30 juillet 2004, explosion d'un important gazoduc en Belgique qui fait 24 morts et 132 blessés. Le 9 août 2004, à Fukui, au Japon, un accident dans la centrale nucléaire de Miyama provoque la mort de 5 personnes et fait 7 blessés. Le 27 juin 2005, incendie sur un site Seveso à Béziers, dans une usine de pesticides de CMB Formulation. 1700 tonnes de toxiques partent en fumée. Le nuage passe sur Narbonne, Carcassonne, Castres, Toulouse. Le 13 novembre 2005, à la suite d'une explosion, déversement de 100 tonnes de benzène, produit hautement toxique, dans la rivière de Songhua, région de Jilin, en Chine. Le 11 décembre 2005, catastrophe de Bunsfield en Angleterre, incendie dans un terminal pétrolier, un des plus importants incendies d'Europe qui dura 2 jours. Le 25 octobre 2008, une explosion dans une usine de poudre de Kazan à 800 km à l'est de Moscou fait 4 morts et 5 blessés. Un tiers du bâtiment a été détruit. Le 23 novembre 2009, une série de 2 explosions dans une usine pétrochimique classée Seveso à Andrézieux-Boutéon dans la Loire fait 4 blessés dont 2 graves.
Pas de panique, hein. Pas de panique.
Les officiers risquent cette eau et chimique, les gardes avec moi à l'intérieur des usines.
Non, non, pas de panique, non, non, non.
Encore plus violente.
Tranquillement, et puis d'un coup, tout s'est éteint. Et il y a eu d'un coup une explosion énorme et tout. Tout l'hôpital a été soufflé, il y a les murs qui sont tombés, les vitres qui ont explosé.
Pour les 15 ans de l'explosion d'AZF, du 19 au 26 septembre, à Canal Sud et à La Chapelle à Toulouse, une semaine sur AZF et tout ce qui fait boum.
Pas de panique, pas de panique.
Plus d'infos. canalsud.net.
Out off my feet. Boom, 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 boom.
you right down off of your feet.